Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse et divine consolation. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il, nos saints anges gardiens. Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je vais essayer aujourd'hui de terminer le traité sur le mariage. Donc, nous sommes dans le supplément de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Question 41 à 68. Je vous rappelle que je vais passer assez vite sur certaines choses, comme je n'ai pas l'intention de vous donner un cours de droit canonique. Et d'autre part, parce que dans toute cette deuxième partie du traité, saint Thomas d'Aquin va surtout parler des conséquences canoniques. Or, c'est le code de droit canonique qui a été modifié depuis le temps de saint Thomas d'Aquin. Nous suivons le code de droit canonique, je vous l'ai déjà dit, de saint Pie X de 1917. Beaucoup des règles canoniques aussi utilisées par saint Thomas d'Aquin ont été modifiées également par le concile de Trente. Donc, nous suivons. En tant que prêtre catholique, je suis évidemment le code de droit canonique de l'Église catholique établi par préparé par le pape Saint Pie X sa mort, donc en 1914, août 14, et qui a été mis en place, institué pour l'Église catholique par son successeur, le pape Benoît XV. Alors, nous en sommes à la question 56 de l'empêchement parenté spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la parenté spirituelle? Eh bien, de même que dans une famille, entre les membres d'une même famille, donc avec une union sanguine, il ne peut pas y avoir de mariage, qu'on appelle empêchement de consanguinité. De la même façon, il y a un empêchement de parenté spirituelle après le sacrement de baptême et le sacrement de la confirmation. C'est-à-dire que lorsqu'un bébé est baptisé, il y a vraiment l'introduction du bébé dans une famille. Et il y a un lien de famille, un lien spirituel, familial en quelque sorte, qui va s'établir entre la personne qui baptise et la personne baptisée, et entre les parrains et marraines, et l'enfant qui est baptisé, ou l'adulte qui est baptisé. C'est la même chose pour la confirmation. Pour la confirmation également, il y a un empêchement de parenté spirituelle qui est établi entre le parrain ou la marraine de confirmation et la personne qui est confirmée. Alors, vous allez me dire, mais c'est vraiment un détail. Non, ce n'est pas un détail du tout, notamment pour un cas très spécial, pour lequel il faut faire très attention, le cas de baptême d'adultes. Imaginez deux jeunes, un jeune homme et une jeune fille qui se préparent au mariage, et qui viennent finalement voir le prêtre. Une fois qu'ils sont vraiment décidés, il se trouve que monsieur n'est pas catholique, par exemple. Mademoiselle est catholique, mais pas monsieur, mais à la suite de la bonne influence justement de sa fiancée, eh bien, ou de sa future, le jeune homme demande le baptême avant d'être marié, ce qui est évidemment beaucoup plus simple pour nous, canoniquement parlant. Et donc, si on voit que la chose est sérieuse, ce qu'il faut vraiment espérer, c'est souvent le cas, Dieu merci, surtout dans la tradition, eh bien, on va baptiser le jeune homme qui n'est pas encore baptisé avant son mariage, même avant les fiançailles quand on peut. Et il faut faire très attention dans ce cas-là, parce que très souvent, dans la préparation que le prêtre va donner avant de baptiser l'adulte, le jeune homme qui va être baptisé, bon, il va lui expliquer qu'il faut qu'il prenne entre autres un parrain et une marraine, et qu'il est important que le parrain ou la marraine soit quelqu'un de catholique, en bon terme avec l'Église, qui est au moins extérieurement vive apparemment en état de grâce. Et comme ce jeune homme qui va être baptisé vient d'un milieu évidemment en général non catholique, il connaît peu de catholiques. Et très souvent, il va me dire, monsieur l'abbé, j'aimerais bien que ce soit ma fiancée ou ma future qui devienne ma marraine de baptême, ce serait bien plus simple pour moi. Il faut tout de suite refuser en disant attention, pas question, parce que si je commets l'erreur d'accepter votre fiancée, votre future épouse comme marraine de votre baptême, il va
Il va y avoir entre vous et elle un empêchement de parenté spirituelle et vous ne pourrez plus l'épouser. Donc, il faut que vous preniez quelqu'un d'autre. Hein. Ceci doit nous faire comprendre l'importance du choix des parrains et marraines. Hein. Souvent, malheureusement, les catholiques ne comprennent pas ça et choisissent un peu un ami de la famille qu'on veut mettre un peu en valeur. Alors, on demande à monsieur ou madame ou mademoiselle d'être parrain de baptême, mais on vérifie pas, on comprend pas que les parrains et marraines vont vraiment rentrer dans la famille d'une certaine façon. Ils deviennent membres de la famille avec un lien spirituel, littéralement. Dans ma famille, par exemple, lorsque il y avait un enfant qui arrivait, et un de mes frères qui a été baptisé, moi-même c'est la même chose, le parrain et la marraine rentraient à tel point dans la famille que on appelait nos parrains et marraines de baptême oncles et tantes, pour bien montrer qu'ils étaient membres de la famille, littéralement. Et donc, il faut faire attention, pas oublier que le parrain a un rôle énorme, pas simplement de prier pour son filleul, mais également de veiller à l'éducation catholique de son filleul, surtout en cas de disparition des parents. Donc, cette parenté spirituelle est quelque chose d'important. Alors, cette parenté spirituelle est un empêchement au mariage. Voilà ce que dit saint Thomas. Donc, nous en sommes à la question 56 du supplément. Donc, dans le mariage, l'union des âmes est bien plus importante que l'union des corps et précède d'ailleurs celle-ci. À plus forte raison, la parenté spirituelle sera un plus grand empêchement que ne l'est la parenté charnelle. Il y a le lien spirituel qui existe entre un parrain ou une marraine et la personne qui est baptisée est encore plus fort, dit saint Thomas, que, d'une certaine façon, la parenté, le lien physique qui existe entre deux frères et sœurs, par exemple. Vous voyez, cela nous fait comprendre l'importance de ce lien provoqué par le baptême, qui nous unit à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, saint Thomas ensuite précise ce que je viens de vous dire, que la parenté spirituelle n'est l'effet que de deux sacrements, le sacrement de baptême et le sacrement de confirmation. C'est donc l'opinion la plus commune. C'est l'enseignement de l'Église, maintenant très net avec le nouveau code de droit canonique de saint Pie X. Alors, cette parenté spirituelle va s'établir entre le baptisé et son parrain et sa marraine, et même entre la personne qui baptise et le parrain et l'enfant baptisé. Voilà ce que dit saint Thomas. Il en est de la régénération spirituelle comme de la génération physique. Si par la génération physique un enfant naît d'une mère et d'un père, par la régénération spirituelle, un enfant naît de Dieu qui devient son père et de l'Église qui devient sa mère. Et comme celui qui confère le sacrement représente la personne divine, dont il est l'instrument et le ministre, de même, celui qui reçoit l'enfant au sortir des fonts, du fond baptismaux, ou le tient pendant la confirmation, représente l'Église. Un lien de parenté spirituelle s'établit donc entre le baptisé d'une part et d'autre part le ministre, le parrain ou la marraine. Alors, je passe sur les parties qui ne sont plus importantes actuellement, par exemple par saint Thomas, dit que la parenté spirituelle se transmet de l'époux à l'épouse. Ce sont des choses qui ont disparu depuis le concile de Trente et le code de droit canonique de saint Pie X. Alors, j'avance. Question 57. Encore une fois, je m'arrête que sur les choses qui sont importantes pour vous. Rien ne vous empêche, bien entendu, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, d'aller directement étudier le texte de la Somme. Le but de ce cours, c'est de faire aimer saint Thomas d'Aquin. Mais si vous aimez saint Thomas d'Aquin, si vous avez compris l'importance de sa somme, j'espère que ça donnera l'idée à plusieurs d'entre vous d'aller directement chercher la somme théologique et commencer à lire la somme théologique pour justement approfondir ce que j'explique dans ce cours. Question 57 sur l'adoption. Je vous l'ai déjà dit, l'adoption est un empêchement de mariage. Et l'Église catholique suit en général les lois civiles sur le sujet. L'adoption, donc, dit saint Thomas, consiste à prendre légitimement pour fils, petit-fils, ainsi de suite, une personne étrangère. Bon, parents, par exemple, ou une famille qui ne peut pas avoir d'enfants, ou qui ont déjà des enfants, mais qui adoptent un enfant, l'enfant adopté, le bébé adopté par la famille, ben évidemment, reçoit légalement les mêmes droits que les enfants du couple, du ménage. Et cette adoption, donc, va, même si l'enfant adopté n'a pas le même sang que ses frères et sœurs, il y a quand même un lien très très fort qui est semblable, analogique, si vous voulez, avec le lien qui existe entre deux personnes de même sang. Donc l'adoption empêche le mariage, même dans ce plan civil, la plupart des pays reconnaissent l'adoption comme un empêchement de mariage. Bon. Donc, cette adoption n'existe, cet empêchement d'adoption n'existe que dans un cas d'adoption formelle. Donc, une personne étrangère qui devient membre de la famille. Alors, cette adoption entraîne un empêchement de mariage. La parenté, dit saint Thomas, est un empêchement de mariage. Or, de l'adoption résulte une certaine parenté, à savoir une parenté légale, une parenté provenant de l'adoption. Donc, l'adoption entraîne donc un lien qui met obstacle au mariage. C'est du bon sens. Et c'est la loi naturelle, en fait. Une conséquence de la loi naturelle. Alors, ce lien de parenté va exister entre l'adoptant et l'adopté, et même dans la même famille. Hein. La parenté légale touche de plus près à l'union charnelle ou à la propagation de la chair que ne le fait la parenté spirituelle. Mais celle-ci se transmet. Donc, la conclusion, dit saint Thomas, la parenté légale se communiquera également dans la famille. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant est adopté, un bébé est adopté dans la famille, l'empêchement de parenté légale existera pas simplement entre les parents et l'enfant adopté, mais également entre les frères et sœurs et la personne adoptée. Dans la famille, le bébé adopté dans la famille. Alors, question 58, saint Thomas va toucher le cas d'impuissance, d'âge, il rajoute à cela le maléfice, la folie, l'inceste, etc. Donc je vais passer rapidement là-dessus, en insistant un peu plus sur ce qui a été retenu par l'Église comme empêchement d'irriment, l'impuissance et l'âge. Donc j'en ai déjà parlé, donc je ne reviens pas trop là-dessus. J'ai déjà donné les règles générales, donc faites attention, bien comprendre ce qu'est l'impuissance. L'impuissance, cela veut dire l'impossibilité physique d'avoir une relation sexuelle entre les deux époux. Bon. De même que, si vous voulez, l'impuissance empêche de remplir la fin première du mariage, on ne peut pas avoir d'enfant parce qu'on ne peut pas avoir de relation sexuelle entre les époux. De la même façon, comme l'union physique entre les deux époux devient impossible à cause de l'impuissance, eh bien, la fin secondaire du mariage ne peut pas être atteinte, et donc l'impuissance est l'impuissance antécédente. Attention, l'impuissance antécédente et perpétuelle est un empêchement d'irrément de mariage. Bon, il est évident que si deux personnes se marient, ont des enfants normalement, et au bout d'un certain nombre d'années de mariage, 30, 50, 40, 50 ans de mariage, le monsieur, arrivé par exemple à 70 ans, devient impuissant. Ben, il est évident que son mariage reste valide, c'est absolument évident. Si on est validement marié le jour du mariage, le mariage demeure valide jusqu'à la mort d'un des deux époux. J'ai déjà expliqué tout ça. L'Église, en général, donne la dispense pour cet empêchement d'impuissance pour les personnes âgées. Ça arrive. Par exemple, deux personnes veuves souhaitent se marier, ça peut arriver, tout à fait légitime, on ne peut pas empêcher ça. Personne de 70 ans, monsieur le B, voilà, moi je suis veuve depuis 5 ans ou 6 ans, j'ai rencontré madame un tel qui est aussi veuve depuis une dizaine d'années, et puis on s'entend bien, on est amis depuis très, très longtemps, est-ce qu'on peut se marier? Bon, on ne peut pas avoir d'enfant, évidemment, vu notre âge. En plus de ça, moi, je suis impuissant, le digne du monsieur, est-ce qu'on peut quand même se marier? Donc, dans un cas comme ça, on peut obtenir les dispenses. Et c'est un cas spécial, donc, qui justifie la dispense. Alors, l'impuissance est un empêchement de mariage. Pourquoi? Saint Thomas explique bien, les impuissants sont considérés comme radicalement inaptes à contracter mariage. Pourquoi? Voilà ce que dit saint Thomas. Si l'acte sexuel n'est pas essentiel au mariage, le pouvoir de l'accomplir est cependant une des conditions requises, puisque chacun des deux époux donne à l'autre le droit d'accomplir cet acte. Puisque l'impuissance rend impossible le pouvoir d'accomplir l'acte physique entre les deux époux, eh bien donc, le mariage est absolument impossible. Dans un cas comme ça, j'ai déjà expliqué, je ne reviens pas là-dessus. Alors, dans certains cas, Saint Thomas ici en parle, bon, c'est un cas un petit peu d'école, le magnifice est-il un empêchement de mariage? Il peut y avoir des cas d'impuissance provoqués par une possession démoniaque. Bon, rappelez-vous le cas connu de Tobie, donc, qui a voulu épouser, si mes souvenirs sont exacts, c'était Sarah, donc tous ses maris précédents étaient morts, tués par un démon, et justement, l'ange a aidé Tobie à éloigner ce maléfice pour qu'il puisse avoir des relations normales et survivre après son mariage avec Sarah. Donc il est évident que dans un cas que le démon peut agir dans des cas comme ça, même si c'est un petit peu un cas très spécial, un cas d'école, mais il faut quand même faire attention à ces choses-là. Il est évident qu'on ne peut que déconseiller fortement de personnes qui sont... une personne qui est possédée par le démon de se marier. Bon. Et si les personnes sont déjà mariées et qu'il y a un cas malheureusement d'infestation démoniaque, le mariage reste valide, bien entendu. Dans ce cas-là, il faut supporter sa croix et se battre pour porter sa croix avec le moins de dégâts possible. Alors, si l'impuissance due au maléfice démoniaque est perpétuelle, elle dirime alors le mariage. Et si elle ne l'est pas, et par suite, n'annule pas, dans ce cas-là, le mariage. Bon, je passe sur ces cas qui sont un peu des cas spéciaux, des cas d'école. Alors, Saint Thomas pose la même question sur la démence, la schizophrénie, la folie totale. Est-ce que la démence est un empêchement de mariage? Bon, strictement parlant, ce n'est pas dans la liste des empêchements de mariage, soit prohibant, soit dirimant. Là, le bon sens intervient. Donc, Saint Thomas explique que la démence supprime l'exercice des facultés mentales. Donc, quelqu'un qui n'a pas l'usage de ses facultés mentales, évidemment, ne peut pas se marier. Hein. De même que l'erreur est un empêchement de mariage, ben, à plus forte raison, la démence est un empêchement de mariage sur un plan naturel, du bon sens. Alors, Saint Thomas, à l'article 4 de la question 58, aborde une difficulté, le problème de l'inceste, un péché épouvantable. Les relations, si vous voulez, à l'intérieur d'une même famille, il se pose la question de savoir si ce péché d'inceste commis avec la sœur de l'épouse annule le mariage. Donc je vous donne la réponse de saint Thomas d'Aquin. Encore une fois, là c'est le bon sens qui va intervenir, mais voilà ce que dit saint Thomas. Quand un homme marié a eu des relations charnelles avec la sœur ou une autre parente de sa femme avant la célébration de son mariage, même après les fiançailles, il faut le séparer de son épouse à cause de l'affinité qu'il a contractée. Mais si l'inceste a été postérieur à la célébration, à la consommation du mariage, on ne devra pas séparer les époux. Cependant, le mari n'aura pas le droit de demander le devoir conjugal et ne pourra pas le demander sans péché. Bon, ce sont des péchés épouvantables, tout péché miséricorde, mais il est évident qu'il y a des précautions élémentaires à prendre pour protéger la chasteté du lit conjugal. Donc je passe là-dessus pour des raisons évidentes. Alors le défaut d'âge, donc j'en ai déjà parlé, donc je reviens pas là-dessus. D'après le code des droits canoniques de Saint Pie X, si mes souvenirs sont exacts, c'est 14 ans pour un homme, 12 ans pour une femme. L'empêchement d'âge est du bon sens élémentaire. Saint Thomas répond de la façon suivante. Le droit romain, le droit canonique de l'Église, exige que l'on ne contracte pas mariage avant d'avoir atteint l'âge de discrétion, âge auquel les contractants peuvent réfléchir sérieusement au mariage et s'acquitter du devoir conjugal. Sinon, le mariage doit être rompu. Cet âge est ordinairement celui de 14 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles. Bon, rappelez-vous que d'après la tradition, la très sainte Vierge Marie s'est mariée à 14 ans. Il y a encore des pays dans lesquels les mariages peuvent avoir lieu très, très tôt, mais en général, ce sont des pays dans lesquels la maturité des adolescents est beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Cependant, en tant que tel, on ne pourrait pas accepter des mariages d'adolescents, des mariages d'enfants. Par définition, un adolescent est quelqu'un qui n'est pas capable de réfléchir sérieusement au mariage, qui ne sait pas encore ce qu'il fait. Il va, un adolescent, qu'est-ce que c'est qu'un adolescent? Un adolescent, la définition d'un adolescent, on peut dire, c'est quelqu'un qui utilise son cœur avant d'utiliser sa cervelle. Ou une autre définition que j'aime bien donner, c'est quelqu'un qui a un cœur énorme, gros comme une pastèque, et un cerveau qui est encore gros comme un pois chiche. Ou d'autres définitions, un cas de ce genre, un adolescent, c'est quelqu'un qui n'a pas encore de lien nerveux entre le neurone, si vous voulez, qui unit le cœur et le cerveau, n'est pas encore vraiment fonctionnel. Et donc, par définition, un adolescent est quelqu'un qui va utiliser son cœur, va utiliser son intelligence. Donc, un adolescent est quelqu'un qui est incapable de prendre une décision concernant toute sa vie. Hein, parce que justement, il est trop jeune. C'est pour ça que saint Thomas d'Aquin nous dit bien qu'il faut pouvoir réfléchir sérieusement au mariage, et ce qui n'est pas le cas d'un adolescent par définition. Alors, question 59, disparité de culte. Donc, j'en ai déjà parlé, je ne reviens pas trop là-dessus. Cependant, attention à cet empêchement qui est un empêchement d'irriment. L'empêchement de disparité de culte est l'empêchement qui existe entre une personne baptisée qui veut épouser une personne non baptisée. Je rappelle ce que j'ai déjà expliqué, que l'empêchement qui existe entre une personne baptisée dans l'Église catholique et une personne baptisée hors de l'Église catholique avec un baptême valide est un empêchement prohibant. Mais l'empêchement qui existe entre un fidèle qui veut contacter mariage avec un infidèle est un empêchement d'irriment. Bon. L'Église, en horreur de ces situations, fait tout pour les empêcher. J'ai déjà expliqué que autant l'Église était forte, et c'est toujours le cas dans l'Église catholique, qui ne peut pas être abîmée en quelque sorte par les idées du monde, parce qu'elle est divine, il est évident que l'Église n'accordait jamais de dispense dans le cas d'un mariage d'infidèle, une tentative de mariage d'infidèle catholique avec une personne de race, de religion juive ou de religion musulmane, pour des raisons évidentes, ce sont de cultures complètement différentes et surtout de religions absolument différentes. Comment voulez-vous éduquer des enfants dans la foi catholique si l'épouse ou l'époux, si les deux époux n'ont pas la même religion, ce n'est pas la même religion catholique, c'est absolument impossible. Aux États-Unis, ils avaient une formule que j'aimais bien, ils disaient épouse catholique, époux protestant, enfant païen, athée, ayant complètement apostasié la foi catholique. Et c'est pratiquement toujours le cas. Donc, lorsque l'Église concédait une dispense de cet empêchement de disparité de culte, donc je rappelle, c'est le mariage entre un fidèle catholique et un infidèle qui n'est pas baptisé, l'Église posait des conditions draconiennes, entre autres que la personne, que tous les enfants naissent soient élevés dans la foi catholique exclusivement. Et que la personne non catholique s'engage à laisser totale liberté à la personne catholique de pratiquer sa foi, ainsi que tous les enfants. Celui qui vit dans la lumière de la foi ne peut pas épouser celle qui se trouve dans les ténèbres de l'infidélité, dit saint Thomas d'Aquin en citant saint Paul. Qu'est-ce qu'il y a de commun, qu'a de commun la lumière avec les ténèbres? Donc, c'est une belle phrase. Hein. Celui qui vit dans la lumière de la foi catholique, ne peut donc épouser celle qui se trouve dans les ténèbres de l'infidélité. Donc, le but principal du mariage consiste à élever les enfants dans le culte de Dieu. Ce n'est pas simplement, comme fin première du mariage, d'avoir des enfants. La fin première du mariage ne consiste pas simplement à l'acceptation des enfants, mais avoir des enfants et les éduquer, sous-entendu, dans la foi catholique. Donc la disparité de culte est un empêchement, parce que dans la pratique, la disparité de culte empêche l'éducation catholique des enfants. Donc voilà ce que dit saint Thomas, je répète la phrase, le but principal du mariage consiste à élever les enfants dans le culte de Dieu. Mais comme cette éducation est l'œuvre commune du père et de la mère, tous deux voudront élever leurs enfants dans le service de Dieu auquel adhère leur foi. Mais s'ils ne professent pas la même religion, ils poursuivront chacun un but opposé. Il ne pourra donc pas y avoir entre eux de véritable mariage. Ainsi, la disparité de culte, quand elle précède le mariage, est un empêchement. C'est une phrase, vraiment un paragraphe bien médité, surtout aujourd'hui. Si les deux époux ne professent pas la même religion, ils poursuivront chacun un but opposé. Aujourd'hui, il faut même préciser un peu les choses. Hein. N'oubliez pas qu'il y a deux églises en présence, l'église catholique et l'église de Vatican II. Donc, ce sont deux églises différentes, donc littéralement deux religions différentes. Je sais ce que je veux dire, on ne va pas plaire à tout le monde, mais l'église catholique et l'église de Vatican II représentent deux églises différentes, donc deux religions différentes. Donc, dans la pratique, si vous épousez, vous voulez épouser une personne qui n'est pas de votre même, de votre religion, vous allez poursuivre des buts opposés. Donc, si un catholique de tradition, un catholique donc, veut épouser quelqu'un qui appartient à l'église de Vatican II, vous allez vous retrouver exactement dans la même situation. Chacun va tirer la couverture à soi et il va y avoir deux buts opposés. L'éducation des enfants va devenir impossible. Et le mariage, d'ailleurs, c'est le genre de mariage, ne tienne pas la route. Je rappelle ce que dit saint Thomas, l'éducation est l'œuvre commune du père et de la mère. Pas simplement le travail de la maman, c'est aussi le travail du père. Donc tous deux, père et mère, voudront élever leurs enfants dans le service de Dieu, du Dieu auquel adore leur foi. Ce n'est pas le même Dieu, comment voulez-vous que ça marche hein? Le Dieu de l'église de Vatican II, c'est le monde, hein? C'est l'homme. Donc, si vous adorez l'homme, comment voulez-vous servir le véritable Dieu? Donc, précise saint Thomas, le fidèle qui contracte mariage avec une femme baptisée mais hérétique contracte un mariage valide. Pourquoi? Parce que là, ce n'est plus un empêchement d'irément, mais un empêchement prohibant. Le nom de cet empêchement prohibant, c'est l'empêchement de religion mixte. Donc un empêchement de religion mixte, c'est un empêchement qui interdit le mariage, mais qui ne l'invalide pas. Alors voilà ce que dit saint Thomas. Le fidèle qui contracte un mariage avec une femme baptisée mais hérétique contracte un mariage valide. Il vient d'expliquer, c'est un empêchement de religion mixte. Mais il commet une faute s'il la connaît comme hérétique. D'accord. Donc, je sais bien que c'est difficile actuellement, surtout pour les familles qui ont du mal à trouver des parties vraiment saints, S-A-I-N-T-S et saints, S-A-I-N-S, les deux, pour leurs enfants qui arrivent en âge de se marier. C'est pour cela, une parenthèse qui est, je crois, importante. Les parents, même qui sont obligés, évidemment, par la force des choses, de se séparer de bien des gens, pour protéger l'innocence des enfants, doivent faire attention de maintenir pour leurs enfants une vie sociale. Même si, surtout si vous faites l'école à la maison, ce qui est une très bonne chose, faites attention à ce que vos enfants aient des contacts avec des enfants de leur âge, évidemment, en triant sur le volet ces enfants avec lesquels ils ont des contacts, pour être sûr qu'ils ne soient pas mis en contact avec des enfants qui vont les corrompre. Bon. Je pense que des familles, des parents qui ont des enfants qui arrivent en âge de se marier, il n'y a pas de partie possible dans les connaissances directes des enfants, eh bien, les parents peuvent très bien se mettre en contact avec d'autres familles de la tradition qui habitent peut-être très loin. Et pour préparer un peu certains mariages, bon, évidemment, il faut que l'enfant devenu adulte qui souhaite se marier donne son accord, mais les parents pourraient très bien se mettre en contact avec une autre famille qui a une jeune fille par exemple en âge de se marier aussi. Il semblerait, connaissant la jeune fille, qu'il y ait des similitudes dans les convictions, dans la vie, la façon de vivre, etc., et que ça risque de marcher. Et bien, ils peuvent très bien éventuellement préparer un peu ce genre de mariage, mais il faut évidemment l'accord des personnes concernées. Moi, ça m'est arrivé deux fois, je crois, trois fois, d'aider un petit peu certaines personnes qui voulaient se marier. Ils me disaient, il n'y a personne de mon âge dans la paroisse dans laquelle je suis. Moi, je ne connais pas d'autres jeunes filles. Je souhaite me marier. Je ne connais pas de jeunes filles avec lesquelles je pourrais me marier. Est-ce que vous pourriez m'aider un peu? Bon, est-ce que vous pourriez m'aider un peu? Eh bien, il m'est arrivé deux fois de le faire. Deux fois de le faire et j'ai dit à cette jeune fille que je connaissais bien, écoutez, oui, je connais quelqu'un qui habite à 10 000 km d'ici, mais vous connaissant et le connaissant, il me semble que ça pourrait peut-être marcher. Eh bien, finalement, ces deux personnes se sont rencontrées et puis le mariage s'est fait. Donc, c'est évidemment un terrain un peu dangereux. Normalement, c'est pas le rôle du prêtre, mais vu la situation actuelle, dans certains cas, le prêtre peut un peu aider parce qu'il peut connaître, de par son apostolat, des personnes à l'extérieur, très loin, dans d'autres pays, dans d'autres continents parfois, qui pourraient faire un bon parti. Hein. Alors, attention, question 59, article 2. Le mariage des infidèles est-il un vrai mariage? Ça, on entend beaucoup trop souvent des personnes qui disent que à partir du moment où on n'est pas baptisé, il n'y a pas de mariage. Attention, c'est faux. Ou les gens qui me disent, monsieur le Babé, des païens ne peuvent pas être mariés devant Dieu, c'est impossible. Attention, si deux païens vivent ensemble, après une cérémonie selon leur tribu, selon leur race, selon leur coutume de vie, avec l'intention d'accepter les enfants, l'unité, l'indissolubilité, ils se marient pour la vie, ce qui est assez rare, mais enfin, ce qui peut arriver, il y a ce qu'on appelle un mariage naturel. Mais un mariage naturel est un véritable mariage. Ce n'est pas un sacrement, mais devant Dieu, ils sont mariés. Devant Dieu, ils sont mariés. Il faut faire très attention dans les cas de conversion. Vérifie qu'il n'y a pas eu de mariage naturel auparavant, mariage naturel mais valide, qui empêche évidemment un deuxième mariage plus tard avec une autre personne. Hein? Donc l'union, Saint Thomas d'Aquin va citer d'abord Saint Paul aux Corinthiens, si un frère a comme épouse une infidèle. Donc il peut y avoir des cas de gens qui sont, surtout à l'époque de Saint Paul, mariés avec des infidèles. L'union des infidèles entre eux est donc un vrai mariage. Attention. Voilà ce qu'explique ensuite Saint Thomas. Donc je vous donne le texte du corps de l'article. Donc c'est l'article 2 de la question 59. C'est un texte important. Le mariage a comme but principal de la naissance de l'enfant. Le mariage a comme but principal la naissance de l'enfant. Donc l'acceptation des enfants, je vous l'ai déjà expliqué, c'est une condition sine qua non pour que le contrat de mariage soit valide. Car cela peut se réaliser en dehors du mariage. Donc, il peut y avoir malheureusement des enfants qui naissent en dehors d'un mariage, mais encore de son éducation. Donc le mariage n'a pas comme but unique la naissance de l'enfant, parce que cela peut se réaliser en dehors du mariage, dit saint Thomas, mais encore de son éducation. Mais encore, dit saint Thomas, son éducation jusqu'à complet achèvement, car toute cause tend à construire son effet, à conduire son effet jusqu'à son état le plus parfait. Donc le but premier du mariage n'est pas simplement la procréation des enfants, mais l'éducation des enfants. Donc, pour qu'il y ait une éducation des enfants, dans un mariage sacramentel, il faut qu'il y ait la même foi. Hein? Donc, l'enfant doit donc parvenir à deux perfections différentes, la perfection naturelle tant du corps que de l'âme. Je répète, l'enfant doit parvenir à deux perfections différentes, à savoir la perfection naturelle tant du corps que de l'âme, que l'enfant atteindra en suivant la loi naturelle et la perfection de la grâce. Donc la première perfection est matérielle et imparfaite au regard de la seconde. Aussi, étant donné que les institutions correspondent au but auquel elles sont destinées, le mariage qui procure aux enfants la perfection naturelle restera matériel et imparfait vis-à-vis de celui qui se propose de donner aux enfants la perfection surnaturelle. Or, les mariages entre infidèles et les mariages entre fidèles ont ceci de commun qu'ils procurent à l'enfant la perfection naturelle. Seuls les seconds peuvent assurer la perfection surnaturelle. Donc il est évident que deux personnes, deux païens qui se marient, le mariage est naturel, mariage valide devant Dieu, même si ce n'est pas un sacrement, puisqu'ils ne sont pas baptisés. Cependant, il a manqué quelque chose, évidemment, dans l'éducation des enfants à venir, parce que les parents seront incapables, pour des raisons évidentes, de donner. Ils pourront expliquer la loi naturelle aux enfants, mais ne pourront pas expliquer aux enfants la loi surnaturelle, et donc seront incapables de donner la perfection de la grâce à ces enfants. Mais un vrai mariage peut donc exister, dit Saint Thomas, entre infidèles, mais n'atteint pas sa dernière perfection comme le mariage entre chrétiens. Cependant, attention, même si un tel mariage entre deux païens n'est pas un sacrement, cependant, ce mariage est un véritable mariage. Il n'y a pas concubinage. Donc le mariage des infidèles, Saint Thomas a une belle phrase, il dit que le mariage des infidèles est un sacrement en puissance, bien qu'il ne soit pas actuellement, parce qu'il n'est pas contracté dans la foi de l'Église. Bon. Alors, ceci est confirmé par une chose très belle, lorsque deux personnes vivent en concubinage. Bon. de païens vivant en concubinage, ou de personnes, je veux dire, je reprends mon exemple, de personnes ont un mariage naturel. Bon, sont de païens, par exemple, sont mariés naturellement, et tous les deux se convertissent à la foi catholique, ce qui peut arriver en mission, territoire de mission surtout. Bon. Lorsqu'ils se convertissent à la foi catholique, ils sont baptisés. Le mariage naturel qui existait entre ces deux époux, qui était un mariage véritable, mais non sacramentel, est élevé au niveau sacramentel par le baptême lui-même. Et donc, ces deux personnes qui étaient païennes et qui deviennent catholiques, qui sont baptisées et qui vivaient déjà avec un mariage naturel, qui les liait devant Dieu, ces deux personnes n'ont pas besoin de recevoir à ce moment-là, de se donner à ce moment-là le sacrement de mariage, parce qu'en fait, ils sont ipso facto mariés sacramentellement à cause du baptême précédent. Vous voyez ? Alors, c'est même parfois difficile à expliquer ça. Moi, j'ai eu plusieurs cas où des gens me disaient, mais monsieur l'abbé, maintenant que je suis baptisé, je vivais déjà avec mon épouse avant, mais maintenant qu'on est baptisé, je voudrais aussi être marié sacramentellement. Vous n'avez pas besoin, parce que le baptême a transformé un mariage naturel en mariage sacramentel. Et donc, Saint Thomas parle avec juste raison d'un sacrement en puissance. Le mariage des infidèles est un sacrement en puissance, bien qu'il ne soit pas actuellement tel, parce qu'il n'est pas contracté dans la foi de l'Église. On appelle donc ainsi, on n'appelle pas, dit Saint Thomas, péché toute la vie des infidèles, parce que toutes leurs actions sont des péchés, mais parce qu'ils ne peuvent être délivrés de la servitude du péché par aucun de leurs actes. Alors, autre article qui concerne cette fois-ci un peu plus le privilège de Saint Paul, un privilège paulinien, donc je ne reviens pas, j'ai déjà expliqué tout ça. À la question 59, article 3, Saint Thomas pose la question suivante. Après sa conversion, un époux peut-il conserver l'épouse infidèle qu'il avait avant sa conversion quand celle-ci refuse de se convertir ? Donc l'Église autorise, dans un cas de mission par exemple, deux païens vivent ensemble, un des deux païens désire se convertir à la foi catholique, demande le baptême catholique, est baptisé, et l'épouse non catholique refuse de se convertir, mais vit en paix avec son époux. On ne change rien, on peut rester comme ça. Dans ce cas-là, il n'y a pas, bien sûr, il n'y a pas de cas de concubinage. La situation, la personne qui vit avec une païenne qui accepte le baptême de son époux n'est pas en situation irrégulière. Bon. Cependant, si... J'ai déjà expliqué ça, donc je reviens rapidement là-dessus. Si l'épouse non catholique refuse de vivre en paix avec son époux nouvellement converti et provoque des histoires impossibles, dans ce cas-là, le pape peut accorder, l'Église peut accorder une dispense, ce qu'on appelle le privilège paulin, pour protéger la foi des nouveaux convertis. Et le mariage peut être rompu, le mariage naturel rompu, pour donner possibilité à la partie catholique de se remarier avec une autre personne catholique. Cependant, en tant que tel, puisque les infidèles contractent un vrai mariage, un mariage naturel, j'ai déjà expliqué, la conversion de l'un d'eux à la vraie foi ne brise pas pour autant le lien matrimonial. Bon. Et souvent, surtout s'il y a des enfants, il ne faut surtout pas tout casser. Et si l'épouse ou l'époux non catholique accepte la cohabitation pacifique, il ne faut pas pousser à autre chose tant qu'il n'y a pas la conversion de la partie non catholique. Évidemment, il faut prier pour que la partie non catholique puisse également se convertir. Alors, saint Thomas explique, si sa première épouse refuse de se convertir et que l'une des l'époux a le droit de contracter un nouveau mariage, comme il a le droit de se marier avec une autre personne, c'est un cas, ce qu'on appelle, de privilège paulin. Donc, j'ai déjà expliqué. Alors, saint Thomas d'Aquin touche aussi un problème très particulier. Est-ce que un époux ou une épouse qui a une épouse infidèle peut-il, à cause de l'infidélité, de l'adultère de l'époux infidèle, cette personne peut-elle se séparer de son époux infidèle, son épouse infidèle, et se remarier? La réponse est non. L'infidélité d'un époux ou d'une épouse n'invalide pas le mariage. Je vous l'ai déjà expliqué. Lorsqu'un mariage est valide, le jour du mariage, il est valide pour toute la vie des personnes mariées. Le lien de mariage n'est rompu que par la mort. Donc, même si dans un cas d'infidélité, le mariage reste valide. Alors, faire très attention parce que ça arrive régulièrement. Les personnes disent, monsieur l'abbé, mon mari m'a trompé, je veux plus savoir, je veux plus vivre avec lui, il m'a trompé, je sais qu'il n'est pas sérieux. Est-ce que pour protéger les enfants, je veux me séparer de mon mari? Je réponds toujours, écoutez madame, s'il y a une raison grave proportionnée, notamment pour protéger l'innocence des enfants, vous pensez devoir le faire, vous avez le droit de le faire. Cependant, attention, la séparation n'invalide pas le mariage. Donc, vous avez le droit de vous séparer s'il y a une raison grave, mais vous êtes toujours marié avec votre époux. Et je précise aussi souvent aux époux, à l'époux fidèle, attention, vous allez vous retrouver toute seule. Vous allez vous retrouver toute seule, vous allez vous retrouver tout seul, et vous allez, ça sera beaucoup plus difficile pour vous, et souvent la séparation, pas toujours, mais souvent la séparation entraîne des risques d'adultère et de remariage civil. Alors, est-ce qu'il faut pardonner? La réponse est toute simple. À tout péché, miséricorde. À tout péché, miséricorde, Dieu pardonne aux pécheurs repentants. Donc, dans un cas où, malheureusement, il y a eu un cas d'infidélité entre deux époux, enfin, des époux catholiques, si l'époux infidèle regrette vraiment son infidélité, fait une bonne confession générale, change sa façon de se comporter, coupe complètement avec la personne avec laquelle il a trahi la foi promise à son épouse véritable, je conseille de pardonner quand c'est possible. Quand certaines personnes n'y arrivent pas. J'ai connu certaines jeunes femmes ou femmes ou épouses qui n'arrivaient pas à pardonner. Je ne peux pas lui pardonner cette infidélité, je veux me séparer. Attention, c'est quand même très dangereux. Et pour l'épouse qui peut se retrouver dans une situation d'adultère très rapidement, parce que le démon va souffler sur les braises, et aussi en renvoyant son époux, elle va pousser l'époux à se remettre dans l'infidélité. Donc s'il y a vraiment une conversion de la partie infidèle, il faut conseiller le pardon. Bon, pas pardon sans condition, pardon conditionnel pour être sûr que les choses tiennent. Alors j'avance à question 59, article 5. Saint Thomas va expressément répondre à cette question qu'on vient de se poser. Un époux chrétien, un époux catholique, peut-il prendre une nouvelle épouse après avoir renvoyé son épouse infidèle? Donc dans le cas d'un époux chrétien qui peut prendre peut-il prendre une nouvelle femme après avoir renvoyé son épouse infidèle? Donc, il y a deux cas qui peuvent se présenter. Premier cas, dit saint Thomas, l'époux infidèle consent à vivre la vie commune sans offense à Dieu, c'est-à-dire sans provoquer l'autre à l'infidélité. L'époux chrétien peut rester dans cette situation. Mais si l'époux infidèle n'accepte pas la vie pacifique commune, ne supportant pas la conversion à la foi catholique de son époux, et dans ce cas-là, on se retrouve dans un cas que j'ai déjà expliqué de privilège paulin. Le mariage peut être dissous et il peut y avoir une application du privilège paulin. Donc le privilège paulin, je vous ai déjà expliqué, c'est la protection de la foi des nouveaux baptisés. Alors, il peut y avoir des cas, encore une fois, à cause de graves difficultés dans le ménage, qui peuvent justifier, autoriser une séparation, mais jamais un mariage. N'oublions pas ce que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Lorsque un mariage est valide, ratifié, consommé, aucune autorité au ciel et sur la terre peut annuler ce mariage. Bon. Cependant, il est évident que dans certains cas, il vaut mieux une séparation que de se disputer, s'envoyer des assiettes à la figure et littéralement en arriver au coup. Dans ce cas-là, il est évident que J'ai connu plusieurs cas, malheureusement bien douloureux, d'épouses qui me disent « Monsieur l'abbé, ça devient impossible, mon mari me trompe tout le temps, mon mari est tombé maintenant dans la boisson, il va tous les samedis soirs s'enivrer avec ses copains de boulot, il revient à 3h du matin le dimanche matin, il refuse d'aller à la messe, il refuse de prier, il refuse de protéger les enfants, il remplit plus ses obligations, en plus de ça, il dépense tout l'argent des mariages en boisson et en filles, il est infidèle, ça devient impossible. » Il vaut mieux dans un cas comme ça, c'est certain, se séparer plutôt que de rendre la vie vraiment dangereuse, littéralement. Hein? Celui qui renverra sa femme la rend adultère, dit saint Matthieu. Donc, s'il y a un cas d'infidélité, d'impudicité, c'est le texte de saint Matthieu, celui qui renverra sa femme hors le cas d'impudicité la rend adultère. Attention, renvoyer sa femme, c'est une chose, renvoyer son époux, c'est une faute, séparation, c'est une chose, séparation ne donne pas le droit de se remarier. Attention. Donc, il peut y avoir des cas graves qui justifient, qui autorisent une séparation de corps entre les deux époux, mais il reste marié. Il reste marié. Attention. Moi, j'ai connu des cas admirables de personnes qui ont dû se séparer, malheureusement parfois en début de mariage, après quelques années de mariage, qui ont dû se séparer. Et souvent, c'est le cas de l'épouse qui doit se séparer parce que l'époux est devenu impossible, notamment avec problème de boisson dans certains pays. Et elle va rester toute sa vie toute seule. Elle ne peut plus se remarier parce qu'elle est mariée devant Dieu. La règle est claire, établie encore une fois par l'Église catholique, mais aussi saint Thomas répète ce que l'Église a toujours enseigné, voilà ce qu'il dit, le mariage contracté devant l'Église, donc un mariage sacramentel, ne peut être rompu ni par l'infidélité, ni par l'adultère. L'adultère. Attention, là on parle de mariage entre deux catholiques. Alors, si c'est un mariage civil entre deux catholiques, le mariage civil n'est pas un mariage, c'est une simple formalité. Donc si deux personnes catholiques baptisées sont mariées civilement, ils vivent dans l'adultère. Ils vivent plus exactement dans la fornication. C'est un cas de fornication. Et donc, dans un cas de mariage entre deux personnes baptisées, donc catholiques, et qui ne sont unies que par un mariage civil, ce qu'on appelle un mariage civil, mais qui n'est pas un mariage, le mariage civil, encore une fois, n'a aucune valeur pour un catholique, c'est une simple union, devant l'État, mais sans aucune conséquence spirituelle. Donc les personnes mariées civilement qui sont catholiques et qui ne sont pas mariées religieusement ne sont pas mariées, puisque le mariage civil, encore une fois, n'est qu'une simple chose purement administrative. Hein. Le mariage civil, un papier de mariage civil entre deux époux catholiques, a autant de valeur qu'une facture de téléphone, hein, pas plus. Donc, si deux personnes baptisées catholiques sont mariées simplement, civilement, il n'y a pas de mariage. Ils vivent dans le concubinage. Donc, si ils souhaitent se séparer et cette fois-ci régulariser une situation, ou régulariser la situation, c'est possible, s'ils ne veulent pas se séparer, qu'ils se convertissent vraiment tous les deux, ils peuvent, après une bonne confession, se voir le mariage catholique, pas de problème, ou puisqu'ils ne sont pas mariés, il peut même y avoir, après séparation, ils peuvent se marier religieusement avec une autre personne, puisqu'il n'y a pas de mariage. Donc la règle reste la même, mariage contracté devant l'Église ne peut être rompu ni par l'infidélité, ni par l'adultère. Hein? Alors, si la femme ou l'homme, c'est pareil, hein, devient pour son mari ou pour son épouse une occasion très prochaine de péché, à tel point que celui-ci ou celle-ci ait des craintes sérieuses pour son propre salut, eh bien, le mari ou l'épouse est en droit de cesser la vie commune. Elle a même le devoir, ou il a même le devoir de cesser la vie commune, si le fait de rester en ménage avec son épouse légitime l'expose à perdre la foi catholique ou à vivre dans le péché mortel. C'est le cas, par exemple, un époux qui, malheureusement, est un époux catholique, mais qui n'est pas un bon catholique, obligerait sa femme à avorter, obligerait sa femme à utiliser la pilule, ou des choses comme ça. Bien, il est évident qu'une épouse n'a pas le droit, même pour faire plaisir à son mari, même pour protéger le mariage et pour rester ensemble pour le bien des enfants, n'a pas le droit de commettre un péché grave. Donc évidemment, dans un cas comme ça, il vaut mieux une séparation plutôt que le péché grave. Hein? Alors, l'empêchement de meurtre de l'épouse, qu'on appelle empêchement de crime, j'en ai déjà parlé, donc c'est la question 60 du meurtre de l'épouse. Donc, deux personnes mariées, donc religieusement, l'un des deux, malheureusement, parce qu'il déteste sa femme, il déteste son mari, a une affaire avec une autre personne, est infidèle dans son mariage, et tue son épouse légitime ou son époux légitime pour pouvoir se remarier avec sa maîtresse, eh bien, il y a là un empêchement d'irrimant de crime. Alors, saint Thomas d'Aquin se pose une question toute simple. Un homme peut-il tuer sa femme surprise dans l'acte d'adultère? Donc, rassurez-vous, saint Thomas répond négativement. La femme n'a pas le droit de tuer son mari adultère, le mari n'a donc pas non plus le droit de tuer sa femme dans les mêmes circonstances. Hein? L'adultère ne rompt pas le lien matrimonial. Il faut que les choses soient claires. Hein? Alors, le meurtre de l'épouse, article 2, la question 60, est-il un empêchement de mariage? Donc, la réponse est positive. Hein? Ceux qui auront tué leur épouse devront faire pénitence et ne pourront plus se remarier. Hein? Non seulement cet empêchement de crime existe après le meurtre de l'époux ou l'épouse légitime, mais existe aussi pour un cas d'adultère avec promesse de remariage. Hein? Une personne qui a une maîtresse, eh bien, et qui promet le remariage après la mort naturelle de son épouse, se retrouve dans un cas d'empêchement justement, un empêchement d'irriment de crime. Ça s'appelle empêchement de crime. C'est pas seulement un crime physique, c'est aussi un crime moral. Donc, celui qui met à mort son épouse doit donc être puni par la défense d'en prendre une autre. Tantôt le meurtre de l'épouse, dit saint Thomas, annule le mariage déjà contracté. Ainsi en est-il quand un mari tue son épouse afin de pouvoir se remarier avec sa complice dans l'adultère. Il devient alors absolument incapable de contracter celle-ci. S'il le fait, le mariage est nul, c'est un empêchement de crime. Bon, évidemment, j'espère, ce ne sont pas des choses qui arrivent parmi nos fidèles. Hein. Alors, l'empêchement de vœux solennel, donc ça c'est des choses très canoniques, j'en ai déjà parlé, donc je vais aller assez vite là-dessus. C'est la question 61. Un des époux peut-il, contre le gré de l'autre, entrer en religion après la consommation du mariage? Hein? Donc la réponse est négative. L'un des époux ne peut faire profession religieuse sans le consentement de l'autre. Bon. On ne peut pas offrir à Dieu ce qui appartient à autrui. Puisque la consommation du mariage a fait du corps du mari la propriété de l'épouse, celle-ci ne peut plus l'offrir à Dieu par le vœu de continence sans le consentement de sa femme. Bon, il y a des cas assez rares, il y a eu des cas de personnes, surtout des personnes qui ont passé un certain âge et qui veulent se consacrer à la vie religieuse, avec l'accord du conjoint, c'est possible. Ça reste des choses pas forcément normales, des cas d'exception. Hein? Avant, la consommation du mariage, un des époux peut-il entrer en religion contre le gré de l'autre? Donc j'en ai déjà parlé. Et je vous rappelle que le mariage non consommé entre deux catholiques peut être dissous par le pape. Donc voilà ce que dit saint Thomas. Le mariage non consommé, c'est-à-dire sans relation physique, peut être dissous par l'entrée en religion, sorte de mort spirituelle qui fait mourir au monde et vivre pour Dieu. C'est des cas, encore une fois, des cas tout à fait exceptionnels. Je rappelle ce que j'ai déjà expliqué, que lorsque, dans un cas de mariage non consommé, encore une fois, la profession religieuse solennelle va briser le lien matrimonial. On a déjà expliqué ça. Et c'est dans les cas, exclusivement le cas de mariage non consommé. Attention. Hein? Alors voilà ce que dit saint Thomas. De même que la mort corporelle de l'époux brise le lien conjugal et permet à la femme de se remarier avec qui bon lui semble, de même, la mort spirituelle de l'époux qui entre en religion permettra à la femme de contracter un nouveau mariage. Mais encore une fois, ce n'est valable que dans le cas de mariage non consommé. Alors, d'autres questions? Question 62, article 1. Un mari peut-il renvoyer sa femme pour cause de fornication? D'infidélité, tout simplement. En fait, là, c'est mal traduit, il faudrait mieux traduire. Un mari peut-il renvoyer sa femme pour cause d'adultère? Puisque si c'est un cas d'infidélité entre deux personnes mariées, ce n'est plus un cas de fornication, mais un cas d'adultère. La réponse est positive. Alors attention, un mari peut renvoyer sa femme pour cause d'infidélité, une épouse peut renvoyer son mari pour cause d'infidélité, mais le renvoi, encore une fois, ne rompt pas le lien matrimonial. Ils sont toujours mariés, ils ne peuvent pas se remarier. Donc, dans ce cas-là, l'époux adultère a manqué de fidélité à son conjoint, aussi celui-ci a le droit de la renvoyer. Donc, j'ai déjà expliqué, ce n'est pas forcément à faire, surtout dans le cas de changement total de vie, pour être, si la personne est vraiment regrette du fond du cœur son péché, il faut faire attention de sauver le mariage. Donc, l'infidélité, qui est une fornication spirituelle, porte aussi atteinte à l'un des biens du mariage. L'éducation des enfants pour le culte de Dieu, de ce fait, motive également la séparation. Donc imaginez un cas de marié, l'un des deux époux apostasie de la foi catholique, pour devenir franc-maçon ou communiste, ou même changer de religion, devient protestant par exemple. Alors là, bien sûr, là il y a un cas d'infidélité spirituelle, une fornication spirituelle, dit saint Thomas, un adultère spirituel si vous voulez, et cela motive la séparation. Même dans un cas comme ça, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un cas de séparation. Saint Thomas fait une petite note aussi du vice contre nature. Le vice contre nature permet aussi de procéder au renvoi. Imaginez un époux qui avoue à sa femme qu'il est devenu un homosexuel. Bon, alors là, à cause de la gravité de ses péchés contre nature, qui crie vengeance devant la face de Dieu, comme dit le catéchisme. Donc il est évident qu'il faut une séparation dans un cas comme ça. Sauf en cas de conversion réelle. Mais c'est très très difficile à obtenir pour les péchés contre nature de ce genre. Alors, le mari, bien entendu, ou la personne, non, l'épouse, c'est la même chose pour l'épouse, l'époux non coupable n'est pas obligé de renvoyer son époux coupable après le péché d'adultère ou de fornication. Ce n'est pas une obligation. Donc, le mari ne peut pas, ou l'époux non coupable, peut demander une séparation de chambre, séparation de lit, dans le cas d'infidélité. Et l'époux non coupable a le droit de l'opérer de sa propre autorité. Dès que la fornication, l'adultère plus exactement, est connue avec certitude, il n'est plus tenu à ce moment-là de rendre le devoir conjugal. Cependant, encore une fois, pour le bien des enfants, s'il y a un cas de conversion véritable, il faut pardonner. Donc, j'avance dans le texte de saint Thomas. Saint Thomas a une note intéressante. Il dit que l'homme, l'époux, donc, qui se livre à l'infidélité, pêche plus gravement que la femme. Car sa raison plus forte lui permet de mieux dominer tous les mouvements de passion corporelle. En plus de ça, l'homme est chef de famille. Donc, il y a plus de responsabilités pour l'homme infidèle que pour la femme infidèle. Ce qui ne veut pas dire que la femme infidèle ne commet pas un péché, bien entendu. C'est un péché grave, la fornication, l'adultère sont des péchés gravissimes. Alors, saint Thomas se pose la question, la réponse est évidente, mais je suis quand même le texte de saint Thomas, bien que ça soit évident. Question 62, article 5, après le divorce, l'homme peut-il épouser une autre femme? La réponse est évidemment négative. Rien de ce qui est postérieur au mariage ne peut le dissoudre. Le lien conjugal subsiste tant que vivent les époux, ni la séparation, ni l'union avec un autre ne le peuvent rompre. Aucun époux n'a donc le droit du vivant de l'autre de contracter une nouvelle union. Ça, il faut rappeler ces choses-là, envers et contre tout, surtout aujourd'hui, où malheureusement, ben, beaucoup de gens commencent à raconter des bêtises sur le sujet, ou même des personnes dans la tradition qui estiment qu'ils peuvent demander dans l'église de Vatican II une invalidation de leur mariage, une annulation de mariage pour pouvoir se remarier. C'est absolument inadmissible. On ne peut pas tolérer ça. Alors, après un divorce, est-il possible pour le mari et son épouse de se réconcilier? Évidemment, la réponse est positive. Saint Paul nous le dit, si l'épouse se sépare, qu'elle reste sans se remarier, puisqu'ils sont mariés pour la vie, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Donc, dans ce cas-là, c'est ce qu'il faut faire. Alors, je ne vais pas avoir le temps de terminer le traité sur le mariage. Donc, ça m'a pris plus de temps que je pensais. Donc, nous terminerons, si Dieu veut, ce cours sur le mariage avec les dernières questions, questions 63 à 168, la prochaine fois. Nous allons terminer par une prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.